menu aujourd'hui la citation du coin proposée par Yannick, suivie d'une analyse du terrible Resident Evil 6, et on finira par Au coin du feu avec Papy Yannick. J'accueille mes chroniqueurs du bon goût. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Hello, hello.
Bonjour.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Bah, rapidement déjà, dans un premier temps, comme chaque mois, à quoi vous jouez ce mois-ci?
Greg a déjà honte.
Non, je n'ai pas honte. J'approche gentiment les 400 heures de Monster Hunter.
J'ai même plus besoin de poser la question.
Voilà.
Excellent.
Gentiment. Non, mais je joue pas des masses étant. Et du coup, effectivement, j'ai tendance à allumer ma 3DS et à me lancer en chasse.
C'est beau. C'est beau, Greg.
C'est beau.
Ouais. Et bien, moi, je joue avec mon nouvel achat. Ma PlayStation Vita.
Tu joues à Persona, Yannick ?
Ouais, je l'ai acheté pour faire plaisir à Sandro. J'ai joué un petit peu. Mais là, je joue à Dragon's Crown, qui est un bon jeu, que je suis sûr que vous allez adorer, mais pour ça, il faudrait que vous y jouiez aussi.
Mm-hmm.
Voilà.
Ah oui, bien sûr. Regarde-moi pas comme ça.
Moi, j'attends mon cadeau toujours.
Oui, mais ton cadeau est bloqué, je ne sais pas où, il est en retard.
Sam.
Oui, on va passer à moi, je pense.
Les gens se foutent du cadeau de.
Pas tant que ça. Moi, je viens de finir Last of Us. Pour. Oui.
Quelle chance tu as.
Oui, on va dire ça. Je ne sais pas si je veux vraiment faire un petit commentaire maintenant. Une grosse déception. Allez, on
d'accord,
c'est lâché.
Mais peut-être qu'on en parlera un jour. Parce que moi, personnellement, j'ai aussi essayé de jouer à Last of Us. Je dis bien essayer, j'ai tenu 4-5 heures, et puis non, effectivement, moi aussi, moi j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout comme toi.
Et moi aussi, tu as vu, c'est persévérance un petit peu.
Je t'admire profondément. Mais moi j'ai pas mal joué ce mois-ci, j'ai joué à Dota 2, je m'y suis mis. J'ai dit Last of Us, Monster Hunter aussi, hein. Et Dishonored que j'ai repris avec un plaisir incroyable, avec les DLC, et puis j'ai aussi l'occasion de bêta-tester Oro, qui est la suite du jeu dont on m'avait parlé dans le podcast des jeux sur téléphone portable. Ouais. Je sais pas si t'es là toi.
Oui,
t'étais
là. Merci.
Non mais et puis du coup on avait parlé de Sanrog en fait, le premier jeu de cette équipe. Bon, ben merci. On va passer à Yannick, à la citation du coin. Alors je rappelle rapidement, même si ça change chaque mois, normalement Yannick devrait nous lire une phrase, on devrait essayer de trouver de quel jeu c'est tiré, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien, et tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. C'est une longue phrase, c'est un long paragraphe.
N'attendez
pas. Traduit par ma propre personne de l'anglais au français, vous m'excuserez si c'est un peu approximatif, j'ai fait de mon mieux. C'est parti. En 1960, j'ai eu une vision du futur idéal depuis l'espace. 3 ans plus tôt, l'Union soviétique avait lancé avec succès le Spoutnik. Le premier satellite de l'histoire créé par la main de l'homme en orbite. Cela fut un choc pour les États-Unis. En réponse, ils mirent toutes les ressources disponibles dans leur projet de vol spatial habité, le projet Mercury. C'est le premier paragraphe, après il y en a encore deux petits.
Oui, alors on va déjà y aller comme ça.
Ah.
Oh, bon, moi, j'ai pensé à le contexte géopolitique un peu. Qu'est-ce que tu me fais des gestes avec ta main là? Tu veux pas.
Il a
t'as peur que j'ai trouvé. T'as pas j'ai trouvé, c'est militaire un peu.
C'est parce que j'ai aujourd'hui mis des pantalons camouflage que j'ai décidé de choisir cette cote.
Voilà. D'accord, mais donc c'est un contexte militaire, je ne suis pas à côté de là. Ah d'accord.
Je ne sais pas.
Je pensais le côté... pour moi j'ai deux choses qui se présentent à moi dans ce genre de cas. Il y a le boulet Tom Clancy, mais je pense pas que c'est ça parce que t'as du goût. Et puis...
Ah mais il peut nous piéger.
Et puis, forcément Metal Gear. Qui a tendance à jouer un petit peu avec ça aussi. Donc bon, apparemment c'est ni l'un ni l'autre. Sam. Greg.
Oh, vas-y Greg, vas-y.
Non, honnêtement j'ai pas pour l'instant j'ai pas d'idée du tout. Je vais pas me lancer.
Red Over Moscou, il y avait le Spoutnik.
Il y avait le Spoutnik, ouais. Red Over Moscou, ouais. Dans
il y avait surtout des pixels dans Red Over Moscou.
Oui.
Ouais. Ouais, non, pour l'instant c'est un peu tôt. Après, ça me fait des fois ça m'évoque un peu des trucs. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai eu un Commando Conquer, Red Alert.
Je pense à ça directement aussi. Directement,
qui me venait dans la tronche. Mais je crois que c'est le contexte. C'est un jeu qui est très marqué rouge. Donc là, il y a un contexte un peu politique, un peu de l'époque.
C'est sûrement un peu biaisé, effectivement.
Ouais, ouais. C'est clair.
Je continue.
Oui, Sam, il avait le droit de donner son avis aussi.
Ouais, alors vite fait. Moi, ça paraît vraiment être le pitch d'un jeu qui sera pas aussi sérieux que ce qu'il montre au début.
Donc, je pense que c'est une vaste blague.
Non, pas à ce point-là, mais disons qu'il va partir en sucette, clairement.
D'accord.
D'une manière ou d'une autre, être sûrement des robots, des trucs. Tout ça, Metal Gear, je trouvais pas si mal comme idée.
Mais pas tout le monde est pervers comme toi avec Far Cry Blood Dragon, tu sais. Peut-être c'est absolument sérieux.
On verra.
Vas-y, Yannick.
Au moment où les Soviets étaient sur le point d'envoyer leur premier homme dans l'espace, l'Amérique expérimentait toujours à l'aide de chimpanzés et de fusées. Le gouvernement voulait des données provenant d'humains. Alors ils décidèrent secrètement d'en envoyer un dans l'espace. Je fus la personne qu'ils choisirent. À cette époque, ils ne possédaient pas la technique pour bloquer les rayons cosmiques et la personne qui accomplirait cette mission serait inévitablement exposée à de lourdes radiations. C'est pour cela qu'ils me choisirent. Après tout, j'avais déjà été irradié une fois.
Oh ah, la vache. Là là, oh le...
C'est les quatre fantastiques en fait.
Alors, irradié.
Je me réjouis de voir ce que ça va être.
Ça me renvoie à plein de trucs de super-héros, mais.
Ouais, voilà.
J'accroche, je ah. pas là.
Bon, moi, ça me renvoie. J'entends irradié, moi, je pense à une goule de Fallout.
je pense à ça aussi. Je fais chier, je me dis que toi. C'est clairement un truc un peu post-apo, un peu délirant.
Non, mais le problème, c'est que justement, j'ai pensé, mais je me suis dit, post-apo, ça peut pas marcher parce qu'apparemment, il y a quand même un contexte qui se veut. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est l'apocalypse, quoi.
Non, pas pour l'instant, mais ça se trouve,
c'est un pré-post-apo.
Après, c'est un flashback, c'est un truc qui se passait avant.
Exactement, ouais.
D'accord, ok.
Ou pas, mais bon.
Ah ouais, ça serait le début. Ok, je vois ce que tu veux dire.
Mais déjà irradié. Donc
que ça raconterait. Quel jeu y aurait un mec. Quand aurait été le héros se serait retrouvé sur la, enfin je sais pas, sur la lune ou enfin aurait dû aller dans l'espace et serait.
Je pense à plein de films, mais niveau jeu par contre.
Et moi c'est pareil, c'est plein de choses sauf du jeu vidéo quoi.
Ouais, puis ça peut pas être non mais tous les trucs dans l'espace, les jeux vidéo, Mass Effect, ces machins, ça peut pas être ça parce que c'est vraiment trop. Bon bah vas-y continue, on est dans les choux là, vas-y.
Bien sûr, vous ne trouvez rien de tout cela dans les livres d'histoire. C'est en voyant notre planète telle qu'elle apparaissait depuis l'espace que je compris. L'exploration spatiale n'était rien d'autre qu'un jeu de pouvoir de plus entre les États-Unis et l'Union soviétique. Politique, économie, course à l'armement, des arènes pour une compétition dénuée de sens. Je suis sûr que tu le comprends. Mais la Terre n'a pas de limite, pas d'Est, d'Ouest, pas de guerre froide. Et l'ironie de tout cela est que les USA et l'Union soviétique dépensent des milliards dans leurs programmes spatiaux et leurs missiles pour arriver à la même conclusion. Au XXIe siècle, tout le monde comprendra que nous sommes juste les habitants d'un corps céleste appelé Terre. Un monde sans communisme et capitalisme. Voilà le monde que je voulais voir. Mais la réalité continue à me trahir.
Oh putain, c'est quoi ce jeu de hippie?
Qu'est-ce que t'as dit comme mot?
Ce jeu de hippie.
Bon, à part ça, j'avais raison. C'est un truc qui se passe bien plus tard que ces débuts de... ces débuts-là.
Attends, j'ai mis le doigt sur... Il y a un truc avec hippie, là.
Je pense qu'il fait exprès pour te leurrer.
Tu penses?
Je suis certain.
Mais est-ce que c'est la mentalité? Non, mais tu peux répondre à deux, trois questions, là.
Oui, je peux répondre à deux,
est-ce
trois questions.
Une, est-ce que ça a justement un rapport avec la mentalité je sais pas, est-ce que de l'époque, est-ce que ça se situe... Déjà, est-ce que ça se situe avant ou après
Il a dit avant ou après quoi 21e siècle. Si je parle du 21e siècle, oui, bah, en parlant du futur, c'est que...
Non, mais j'ai pas suivi, c'est vrai. 21e siècle, excusez-moi, je dis des bêtises.
Donc, le côté un petit peu anticipation auquel je pensais, peut-être pas si faux que ça...
Ouais, il a raison, ouais.
Voilà.
Enfin, y a, tout le monde a un petit peu raison.
Ah ! Est-ce que, tout d'un coup, je pense... Bah, anticipation proche, je pense à Deus Ex, peut-être ? Non, le...
Non.
Non, 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 non. Mais c'est... Vas-y,
Sandro, t'as donné le mot hippie, t'as donné la réponse.
J'ai donné la réponse.
Mais oui. Ah, c'est Metal Gear.
C'est un Metal Gear, mais quel est
le Peace Walker?
Non, c'est pas pourtant, le Peace Walker. Pourtant, il y a bien le hippie, mais c'était.
C'est le 3.
C'est le 3.
Ah, moi, j'ai tout de suite pensé à celui-là, dès le départ. Ah, t'es un salaud, t'as si triché.
J'ai pas triché, mais je savais que. Voilà,
tout de suite, la première image quand t'as lu, j'ai tout de suite eu l'image du début quand tu sautes. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'image de Metal Gear.
C'est pas un passage du début.
Non, je pensais bien, mais j'ai cette image qui m'est venue en tête. Parce qu'au début, il y a personne qui parle, il y a la chanson trop bien là.
Ouais, le générique, ça a James Bond.
Ouais.
Ça, c'est le superbe passage où t'es dans une espèce de champ avec le boss qui est dans sa combinaison d'astronaute.
Ah ouais.
Ah, mais j'ai jamais été jusque-là.
Et bah voilà, t'as bien tort.
Metal Gear, ça a l'air de me faire dormir.
Mais moi, je trouve pas, parce que je trouve que Kojima, il a toujours eu des discours qui sont vachement sensés. Mmh. Puis à l'heure actuelle, c'est quelque chose.
Non, mais c'est un discours qui est plutôt sympa, effectivement, à trouver dans un jeu. Hein, c'est.
Non, mais je dis pas que c'est pas bien. C'est que je, ouais, je
mais on joue pas des discours, c'est ça. C'est ça, parce que je joue pas un discours, ouais, c'est ça le problème.
Le pauvre Sam, il peut pas en placer. Il
peut pas en placer. C'est un peu ce que je disais, que je trouvais intéressant au début, c'est que c'est un contexte plus ou moins très, enfin, très, assez sérieux comme ça, ouais, pour un jeu qui finalement n'est pas du tout, qui part complètement en steak et en cacahuète. Donc j'aime bien ce côté un petit peu de reprendre un truc très posé, très, très sérieux, des gros, des beaux et discours, et puis en fait, qui part sur autre chose après.
Enfin, ouais. Ouais, je vois le gameplay, côté un peu.
Ouais, mais juste que c'est marrant ça, effectivement.
Mais c'est vrai que sur le, je trouvais que pendant quelques temps ça manquait justement de folie au niveau gameplay, c'était devenu un peu plan plan. Sur Peace Walker, je trouve que ça reprend du poil de la bête, mais là, enfin, le 3 je l'ai pas.
Non, le 3 j'ai beaucoup aimé.
Mais tout le monde dit qu'il est génial, mais alors moi j'ai recommencé 3 fois, j'ai jamais réussi à avancer plus loin que la jungle, donc voilà. Bon, ben
merci.
Un point pour Sandro.
Merci, ouais, messieurs. Mais c'est, et puis joli texte. On va écouter un tout petit peu de musique avant de parler de Resident Evil 6. Ce mois-ci, alors il paraît que cette fois tout le monde a joué au jeu du mois.
C'est incroyable,
grandiose. On n'aura pas de team de l'inutile qui vont nous faire des vieilles blagues moisies avec
sur la base FIFA.
De FIFA. Voilà, exactement. Ouais. Je fais presque être malheureux.
Ouais. Moi, je vais quand même tenter d'en placer une ou deux. Hein.
Un.
Je bon. Peux.
Sans Seb, tu vas.
Sans Seb.
Non, quel malheur. Bon, juste avant, comme d'hab, qui a joué combien de temps, juste qu'on fasse le point, qu'est-ce que vous avez fait sur le jeu?
Alors, j'ai pas le compteur en tête, mais je l'ai fait deux fois. Une fois tout seul et une fois en ta compagnie, Sandro, en coop. Donc, mais ça représente, via la durée du jeu, ça, j'ai bien dû jouer entre 50 et 60 heures, je pense, au final.
Ouais, je pense pas loin. Hein.
Mm-hmm. Ouais, bah, moi, je suis clairement celui qui a le moins joué. Mais bon, moi j'ai une excuse, c'est que j'ai joué en coop avec quelqu'un qui joue pas vraiment coop, donc c'était un petit peu déplaisant.
J'imagine.
T'as fait quoi? T'as fait une campagne ou
Ouais, j'ai fait une campagne.
Une
ouais.
campagne.
Et tu as dû te battre avec ton.
Ouais. Laisse-moi ces mules, putain.
C'est pas du coopératif dans ces cas-là.
Non,
c'est
non,
de
compétitif. Compétitif. Ouais, c'est du compétitif. Ouais.
Et Sam.
Et pour ma part, j'ai fait le jeu une fois en entier et puis quelques heures en coop avec Seb, justement, qui n'est pas là ce soir, mais donc j'ai pu voir un peu les deux phases. Mais pas, j'ai pas fait le coop en entier, malheureusement, j'aurais bien un jour.
Ok.
Mais bon.
Bon, puis moi, bah, j'ai justement fait. J'ai pas fait le jeu en entier au final parce que j'ai pas fait la dernière campagne avec Ada en solo. Je dois dire que j'ai tellement aimé, enfin, on en reparlera après, l'expérience coop avec Greg où ça a été vraiment fantastique. On s'est extrêmement marré et après de rejouer tout seul ça me voilà ça me rendait triste. Bon bah on va passer à la suite. Je vais vite faire le wiki du coin avec le quand quoi qui comment avant qu'on passe à l'analyse.
C'est nouveau ce nom de rubrique, le wiki du coin?
Ouais, mais la dernière fois t'as loupé
la dernière fois j'étais là, moi.
Bah, oui, j'ai expliqué la dernière fois. Tu okay. vois, t'écoutes pas ce que je dis.
Ok, c'est bon.
Non, mais c'est pas possible ça.
Ce soir, il est attentif. Moi, c'est bien.
C'est ah, bien.
Tu vois,
c'est
je fais des efforts.
Ouais. 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 Le mois passé, il se disait personne à 4, je vais pas jouer. Oh, je dors.
Non, c'est bon. Pas ça. C'est qu'avec Seb, on préparait notre blague sur FIFA. Ah, ça vous a pris 40 minutes.
Ça vous a pris 40 minutes. Mais si tu es pour ça, magnifique. Bon, alors. Donc, quand le 2 octobre 2012 chez nous et deux jours plus tard chez les Japonais, à savoir qu'il y a un pays qui a eu plus de chance que les autres, ou qui a été plus malhonnête que les autres, parce que la Pologne a eu des exemplaires fin août
juste,
dans quelques juste, magasins un peu scrupuleux, parce qu'il y a eu un vol de la version allemande. Donc c'est très très classe. Le climat de l'époque et le climat idiot dont on a beaucoup parlé, les Japonais, c'est des caca, ils savent plus faire des jeux vidéo. Et bon, là c'est la faute à Capcom. Pour pas arranger, ils ont gratifié la planète entière d'une démo absolument minable.
Minable.
C'est le peu qu'on puisse dire.
Vraiment. Bon, ils ont surtout gratifié la planète d'une couverture de jeu minable aussi. Hein.
Ah oui,
la girafe.
La girafe qui se fait tirer une queue, c'est superbe, effectivement. Une fois que t'as vu ça, tu peux plus rien voir d'autre.
Ouais, t'as jamais vu ? Bon, je te montrerai.
T'as jamais vu ? Ah non, non, mais tu.
Je te montrerai après l'émission.
Prépare-toi à rentrer dans un autre monde. Après, tu je peux plus voir un 6. Plus jamais. Plus jamais. Bon, alors, quoi ? Donc, bon, je vais pas vous la faire. On représente pas trop la série Resident Evil. Je pense que tout le monde la connaît. Elle a. Popularisé ou créé, personne n'est d'accord, le genre Survival Horror, en tout cas, il lui a donné un nom. Il a amené la plupart des codes du genre. C'était en 96 avec le premier épisode. Il était lui-même inspiré non officiellement de Alone in the Dark, parce que Capcom a jamais voulu admettre qu'ils avaient joué à ce jeu, ils ne le connaissaient pas officiellement. Et officiellement d'un jeu NES de Capcom nommé Sweet Home. La série va connaître énormément de gameplay différents, enfin énormément, c'est-à-dire dans voilà, il y a eu pas mal d'épisodes annexes qui ont exploré pas mal de choses, le shoot sur rail, le shoot multijoueur, même de l'action coop en ligne, mais la série principale jusqu'au 4 va rester vraiment du survival horror classique, et à partir du 4, on va verser gentiment vers l'action. Ce qui va poser problème pour certaines personnes, pour certains fans hardcore. Et Resident Evil 6 est lui, j'ai envie de dire, le produit presque final du glissement vers l'action, comme on le verra après. Capcom, éditeur aux 1000 suites sans saveur pour certains, et puis machine à grand jeu mal compris pour à peu près toute l'équipe qui est là. Hein. Je crois que oui. Tous des putes à Capcom.
Malheureusement, je suis devenu.
Mais moi aussi, mais sans savoir.
Mais ouais, sans se rendre compte. C'est vrai qu'au début,
j'ai
on n'était pas.
Pas venir celle-là. Hein.
On verra quand on parlera de Monster Hunter un jour, quand Greg aura fini de jouer.
Jamais.
Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait le jeu. Je vais juste en citer un, c'est le producteur qui est Hiroyuki Kobayashi. J'adore parler japonais. Responsable de la production de Killer 7, de Devil May Cry 4 et du Grand Dragon's Dogma que vous auriez dû. Qui était l'occasion de notre podcast zéro que vous n'avez pas entendu. Il y a d'autres mecs qui ont participé.
Ouais. On la jouera Capcom d'ailleurs pour le podcast Dragon Dogma. C'est un DLC payant.
DLC payant. Et c'est une bonne idée ça. J'aime bien. Il y a eu d'autres mecs qui ont travaillé dessus, mais bon, je vais pas vous faire tous les CV parce qu'ils ont à peu près travaillé que sur la série Resident, donc c'est un peu moins intéressant. Et puis là, on aborde le comment, qui est un peu la partie la plus intéressante quand on parle de ce jeu. C'est tout l'accueil de la presse, où là, ça va de la daube à immonde à l'excellent jeu. Je vais vous faire un petit tour d'horizon en vous citant quelques conclusions de tests de différents sites ou magazines papier pour Canard PC. Alors, pour Gamekult, c'est le Japon à la rue face aux glorieux TPS occidentaux. Comment Capcom s'y est-il pris pour sortir un épisode aussi indigeste ? Un TPS laborieux qui a cru pouvoir s'inspirer de tout ce qui brille à l'ouest sans jamais faire les bons choix. Coincé entre un gameplay archaïque, une réalisation ponctuée d'innombrables fautes de goût et une multitude de séquences bancales qui ruinent tout le travail d'immersion, le résultat est vraiment décevant. Canard PC. Oui, tu voulais.
Juste comme ça, c'est un peu ce que je pensais de Last of Us, c'est marrant.
Ah ouais, bah ouais. Mais alors, c'est pas comme ça que t'es critiqué sur GameCult.
Non, c'est ça qui est drôle en fait. Je crois qu'ils ont renversé les tests.
Ils ont dû se tromper dans les conclusions. Ouais. Après, Canard PC, qui adore, enfin vraiment aime beaucoup le gameplay, et qui regrette par contre sur la fin de la critique le trop plein de QTE. Et puis, un truc assez magique, effectivement, que je me dois de citer, le système d'assiettes pour les diaries, en fait, on débloque un peu du background à lire supplémentaire. Et effectivement, on ne sait pas pourquoi. Normalement, c'est le genre de truc qu'on met, on fouille un bureau et puis on le trouve. Non, alors là, ils ont décidé que ce serait des assiettes bleues ou vertes cachées dans le décor sur lesquelles il faut tirer. Et pour y accéder, il faut revenir au menu principal. Donc, c'est effectivement hallucinant.
Et en plus, vraiment, ce que raconte ce qu'on débloque en tirant sur l'assiette, le texte qu'on débloque est assez, si on s'intéresse au scénario, est assez essentielle. Quoi.
Oui, non, c'est clairement important. Mais ça, j'ai pas compris, effectivement.
Je ne les ai pas lus, mais je trouvais effectivement assez drôle le choix de design. Bon, il n'y a pas que celui-là, on verra plus tard.
Bah, écoute, il y en a qui lisent l'avenir dans le Maracafé, et puis il y en a d'autres qui voilà. lisent le scénar dans les assiettes sales.
Dans les assiettes sales.
C'est pas des assiettes, c'est un peu un miroir à la Shenmue.
Ouais,
tu sais, tu te rappelles, dans le début de Shenmue, on disait ceci est un miroir.
Oui, il n'y a pas de vide.
Il n'y a pas de vide, il y a une perle. c'est ça, c'est des miroirs à la Shenmue.
Alors, je vous lis quand même leur conclusion, enfin un extrait de la conclusion. Si Resident Evil 6 n'atteint pas le niveau du quatrième épisode, il a le mérite de remettre la série sur les rails en faisant le nécessaire pour donner aux fans ce qu'ils demandent. De toute façon, sans mention de Resident Evil, l'excellent gameplay action du titre justifie à lui seul l'achat du titre. Envoyez plus de tentacules. Destructoid, sur ce coup-là porte très bien son nom. Ce n'est pas suffisant de dire que Resident Evil 6 est un mauvais Resident Evil. Ceci sous-entendrait qu'il pourrait s'y cacher une expérience de qualité si les fans dépassent leurs idées préconçues et leurs sentiments de trahison. Non, Resident Evil 6 est mauvais en regard des standards des jeux vidéo en général. Pas juste ceux élevés, fixés par sa propre lignée. C'est un jeu médiocre qui devient insultant quand d'affligeants faux pas entrent en scène. Resident Evil 6 n'est pas juste un pas en arrière pour la série, c'est un retour en arrière pour l'action shooter moyen. Ah, ça le fait, hein.
Ah, ça le fait. Ça le fait. Ah, comme quoi, j'ai vraiment des goûts de chiottes, alors.
Hein. Ouais, vous avez tous des goûts de merde. Et pour finir, jeuxvideo.com, qui me surprendra un peu toujours de la clairvoyance pour un site si grand public. De fait, si les différents binômes ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres et que la technique n'est pas toujours optimale, Resident Evil 6 a su voir plus loin que Resident Evil 5. Si on pourra déplorer qu'il ne mette pas dans le mille à chaque fois, il a au moins le mérite de ne pas verser dans un immobilisme gênant. En somme, si on attend encore le Resident qui mettra tout le monde d'accord, ce segment demeure incontestablement un morceau de choix. Donc, pour résumer, personne n'est d'accord. Hein vous voulez dire un truc?
Je vois que nous, on est plutôt d'accord. Mais bon.
Nous, on est justement.
Voilà. Donc,
là, on a un peu cassé tout le suspense, mais je voulais dire donc jeu de merde, pas jeu de merde. On va le voir avec notre petite analyse à nous. On va commencer par le commencement de tout bon jeu. On va commencer par le gameplay. On va expliquer un petit peu le système de jeu parce que mine de rien il est assez atypique. On a vu dans les critiques de nombreuses fois que c'était censé être un TPS classique type Gears of War. Ça ne l'est pas du tout, c'est quelque chose d'assez original, mais comme je n'ai pas arrêté de causer pendant le podcast du mois passé pour expliquer les systèmes de jeu, je vais passer la parole à Greg qui va nous expliquer.
Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, hein. c'est une sorte de phase de podcast collégial, parce que je vais mettre les bases, et puis si j'oublie des choses, ou qu'il y a des choses importantes que vous voulez dire, vraiment n'hésitez pas. Je vais aussi zapper pas mal de détails que je juge un peu superflus, qui ne sont pas forcément au cœur de l'expérience Resident Evil 6. Je vais commencer par le gros morceau directement, au final, c'est le gameplay, entre guillemets, des combats. Donc Resident Evil 6 se joue effectivement dans les grandes lignes, comme un TPS, on va dire, avec les mécaniques qu'on connaît, hein, avec donc la visée sur la gâchette gauche, le tir sur la gâchette droite, cette fameuse visée épaule que Resident Evil 4 finalement a apporté au TPS. La grande différence, la grande nouveauté pour la saga Resident Evil, c'est qu'on peut se déplacer en visant, voilà, c'était une première.
Wow,
oui, c'est révolution.
Un nombre de trolls là-dessus, c'était
oui, c'était insupportable. D'ailleurs, souvent dans les tests, le paragraphe où on parle du gameplay, on s'arrête à ça, à dire on peut viser en bougeant en visée, ce qui voilà, c'est un peu limitant. C'est surtout en fait un TPS qui met beaucoup l'accent sur le corps à corps, si on le veut, si on le souhaite, mais qui a un système de corps à corps très complexe, avec des enchaînements, avec des contre-attaques, avec...
L'énergie aussi.
L'énergie, ouais, l'endurance, tout à fait, qu'il faut gérer, parce qu'on se retrouve... Alors, le corps à corps a souvent été jugé très puissant. C'est vrai qu'il est puissant, mais c'est vrai qu'il faut aussi gérer son endurance. Et puis, si on est débordé, ça devient quand même compliqué. Et pas tous les personnages sont égaux.
Et puis, souvent, bah, avec les personnages, hormis Jake, qui est vraiment une brutasse de corps à corps, c'est aussi un engagement. Parce que si on se précipite au corps à corps, on se dit, effectivement, il est puissant, mais qu'on se retrouve à bout de souffle au milieu des ennemis, c'est souvent la catastrophe.
Voilà. Exactement. Il y a un système de couverture qui, pour être honnête, je pense est assez peu utilisé. Alors, il n'est pas excellemment bien pensé en termes de jouabilité pure. C'est pas très, on va dire, C'est pas très instinctif, intuitif. On va dire qu'on va peut-être plus l'utiliser dans les chapitres, comme on verra plus tard, les chapitres un peu plus action où vos ennemis ont des armes à feu, parce que ça n'a aucun intérêt de se mettre en couverture quand il y a des zombies qui vous foncent dessus, forcément. Donc voilà. Et puis après, il y a plein de petites subtilités. Par exemple, la fameuse possibilité de se jeter à terre, de rester à terre. Et de continuer à tirer, de faire des roulades quand vous êtes à terre.
De glisser.
De glisser, exactement. Il y a, dans le combat, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, oui, ce fameux tir, hein, ce tir on va dire, sans viser, ce tir au jugé, on va dire, quand on appuie sur les deux gâchettes en même temps, tir réflexe, que au début j'utilisais assez peu. Donc, au final, donne de très bonnes sensations.
Et puis, qui permet de déséquilibrer l'ennemi pour, si on est au corps à corps et puis qu'on est assez rapide, de pouvoir tirer réflexe et puis après pouvoir lui mettre un coup de pied pour pouvoir l'éloigner.
Voilà, suivant l'arme aussi qu'on a équipé, le tir réflexe, c'est valable pour toutes les armes. Du coup, il y a des tir réflexes qui ont des effets différents. Oui. Donc, c'est aussi à maîtriser. Donc ça, c'est vraiment pour les mécaniques de combat pures. Après, il y a des choses comme par exemple le weapon swap, c'est-à-dire le fait qu'on change d'arme avec des raccourcis, c'est instantané. C'est-à-dire que l'arme, concrètement, se téléporte dans votre main. Vous pouvez passer d'un pistolet à un fusil à pompe en une fraction de seconde. Du coup, ça autorise des combos très capcomiens, on va dire, dans la gestion des armes. Il y a la gestion de la vie, qui est aussi intéressante, parce que vous n'avez pas une vie qui remonte. Elle remonte, mais c'est vraiment, on va dire, négligeable. C'est un système de carrés qui se remplissent quand il est un petit peu vide, mais c'est négligeable. Mais si vous voulez vraiment que votre vie se remplisse de nouveau, il va falloir prendre des médocs, que ce soit des plantes ou les sprays de Resident Evil classiques. Et puis, il y a autre chose. Donc, ça revient un petit peu au fait de cette fameuse glissade et le fait de rester au sol. Il y a la gestion de l'espace. C'est-à-dire que c'est un détail, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais dès qu'il s'agit de franchir des obstacles, de monter à une échelle, de tomber, de par exemple de descendre d'un promontoire, choses comme ça, il faut appuyer sur un bouton.
Oui, non, mais alors vas-y, tu peux. Parce que de toute façon, tout ce qui concerne le gameplay pur de combat, on va en parler maintenant.
Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on peut juger comme, par exemple, je sais qu'on a un ami qui faisait ça comme archaïque.
Justement, on trouvait ça extrêmement archaïque et extrêmement pénible.
Voilà. Je peux comprendre.
Pourquoi ça l'est pas, Greg ?
Pourquoi ? Mais parce que pour moi, ça l'est pas parce que ça va dans tout ce système comme met en place où il donne les commandes aux joueurs. C'est-à-dire que souvent dans Resident Evil, on va se retrouver dans une zone délimitée avec des obstacles, avec des possibilités. Il va falloir utiliser tous ces éléments de gameplay que j'ai cités avant pour s'en sortir le mieux possible. Et le fait de gérer un obstacle ou de gérer le fait de descendre d'un niveau, par exemple, en termes de hauteur, est laissé vraiment à l'appréciation du joueur. C'est-à-dire que c'est le joueur qui va décider de descendre ou de passer un obstacle, et ce n'est pas une animation contextuelle déclenchée de manière automatique, comme on en voit dans énormément de TPS modernes.
Oui, vas-y, continue, excuse-moi, j'ai écouté.
Non, mais c'est tout simplement, c'est laisser vraiment le joueur à le contrôle sur ça aussi.
Bah, ça va avec le weapon swap aussi dont tu parlais. Oui. C'est, voilà, on n'est pas là pour faire du réalisme, on en s'en contre.
Je crois qu'on n'est même pas dans la notion de réalisme au final, parce qu'au final, là, on est dans une notion de gameplay. C'est juste une question de. C'est des choses, effectivement, qui étaient présentes dans les TPS peut-être au début. Ce genre de ce bouton action, et maintenant on attend ça tout automatisé.
Mais pour moi, c'est quand même. Enfin, il y a quelque part. Je sais pas, toi, tu utilises deux termes, mais de réalisme. J'entends réalisme par le fait que, justement, ce qui choquait peut-être Seb, c'était le côté que, justement, ça donne un côté mécanique. Ça donne un côté. Alors que quand tu t'approches d'un truc, puis que c'est coulé, puis que le gars monte, il y a une notion, on a l'impression
Assassin's
Creed, par exemple, où il y a ce côté. Dit que là, c'est je veux monter, je veux pas, c'est ouvert, c'est fermé, c'est très ordinateur, quoi.
Bah, surtout, ça évite de faire des erreurs en plein gameplay, parce qu'il y a même pas mal de passages qui sont assez chauds, qui sont assez difficiles comme jeu, et ça évite de juste de tout d'un coup déclencher une animation automatique. Et non, je voulais pas nous retrouver au milieu des zombies, pas prévu. Au moins, on a le contrôle tout le temps de ce qu'on fait.
Mais c'est l'école japonaise j'avais vu un article, je sais pas si j'en avais déjà parlé là dans le podcast, mais j'avais lu un article sur Devil May Cry. Justement où il les questionnait Ninja Theory et puis Capcom sur leur collaboration Japon et Occident, et les Japonais de Capcom disaient c'est vrai que vous, on a dû apprendre à Ninja Theory que en Occident vous avez tendance à donner beaucoup de valeur aux animations, à avoir des animations coulées, des trucs, et nous au Japon, pour nous c'est avant tout l'efficacité du gameplay. Donc si on doit saquer des animations, gens pour le bien du gameplay, on les sac. Et du coup, c'est ce que Ninja Theory a dû travailler sur Devil May Cry pour retrouver justement le côté très brut et puis très précis. Exactement. Du gameplay.
Exactement. Encore deux éléments. Il y a un léger aspect RPG dans Resident Evil 6. C'est-à-dire simplement en tuant des ennemis, en cassant des caisses, des choses comme ça, on va tomber sur des sortes de petites statues qui correspondent à de l'argent, on va appeler ça comme ça. C'est en fait un argent qui va vous permettre d'acheter des compétences entre les chapitres. Et c'est des compétences, vous allez pouvoir en équiper 3. Et c'est des compétences qui vont améliorer votre visée, qui vont améliorer votre endurance, qui vont améliorer le drop des armes, qui vont... tout un tas d'influences, on va dire, mais un peu à la manière d'un RPG sur votre expérience. Et c'est bien sûr ce genre de boost, entre guillemets, et sera disponible dans tous les modes de jeu de Resident Evil. Donc il y a une sorte de suivi dans votre expérience du jeu. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr le gameplay qui était pensé pour le coop. C'est aussi un Resident Evil qui est extrêmement orienté coopératif comme l'était le 5. Et là, bon, on reviendra certainement plus tard, mais on a en gros un roster de 7 personnages.
Ouais. Alors, ça, justement, on en parle après. Je vais profiter justement pour qu'on passe à la suite parce qu'autrement, on est déjà à la bourre.
Comme d'habitude.
Voilà, mais comme d'habitude. Alors, avant qu'on arrive sur l'aspect de coop, etc., il y a Omar Boulon dans sa critique de Canard PC qui dit quelque chose que je trouve très juste, c'est qu'une des richesses incroyables du jeu et qui fait que ce jeu est vraiment exceptionnel, c'est ses ennemis. J'explique un petit peu parce qu'au fil du jeu, ils vont évoluer en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a des ennemis standard, celui qui tire de loin, celui qui tape au corps à corps, celui qui a un effet de zone, enfin des trucs assez qui explosent, qui fait un effet, voilà, enfin les trucs classiques. Et tout d'un coup, on va être introduit aux javots, qui sont des ennemis qui mutent en fait. Et chaque fois qu'on leur tire dessus, ils ont des armes à distance à la base, et puis chaque fois qu'on leur tire sur une partie du corps, ils ont une chance, une probabilité que le membre mute. Et quand ce membre mute, ils vont complètement changer d'attitude. C'est-à-dire, par exemple, tire dans le bras et le bras peut se transformer en espèce de gigantesque bouclier qui est pare-balles. Donc, du coup, il va falloir adapter sa stratégie. Ou les jambes peuvent les transformer en espèce de.
De sauterelle, je
crois.
Il y a la sauterelle et puis il y a le papillon.
Le papillon,
le papillon aussi, où là, ça devient un ennemi aérien qui nous tire dessus. Et moi, j'ai adoré le concept parce que je trouve que ça donne une espèce de tension dans les combats où on ne sait jamais vraiment où ça va partir. Et puis surtout, c'est nous qui avons une influence là-dessus. Donc, on essaye de viser les parties, et les bonnes parties, celles qui nous posent moins de problèmes, parce qu'on a toujours un petit peu de facilité avec certaines mutations et d'autres pas. Puis il y en a qu'on veut vraiment pas voir, je crois qu'il y en a qui tuent d'un coup.
Il y a mutation d'une sorte de pince là.
Ouais, de pince, au corps à corps, ils nous tuent d'un coup. Enfin, il y en a qu'on aime pas. Et du coup, on essaye de quand même de toucher les parties du corps. Puis chaque fois qu'on tire sur la fosse, on serre un peu les fesses en se disant oh, faut pas qu'il mute. Et du coup, on doit en permanence réadapter sa stratégie. Et moi, j'ai adoré. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais moi ça j'ai trouvé grandiose.
Mais moi ça fait partie des énormes qualités du chapitre de. Il est surtout très présent dans le chapitre de Chris, le deuxième chapitre.
Chris Pierce,
ouais. Et ça fait partie des énormes qualités de ce chapitre qui a été souvent critiqué de manière très violente par la presse et les joueurs. Effectivement,
c'est plus action en fait.
C'est plus action, voilà. Mais il y a cette idée de génie déjà vous qui est.
On les retrouve pas avec Jake.
Un petit peu, c'est pas le thème central. Ouais. Vraiment, c'est vrai que dans le chapitre de Chris, ils sont centraux, quoi. Vraiment.
Pour aller plus loin aussi, genre une imaginaire, il y a une variété des ennemis et des réactions des ennemis qui évoluent pendant tout le long du jeu. Donc, commence à s'habituer à un type d'ennemi, et d'un coup, il va faire autre chose, il va passer sur autre chose, et
exactement.
Donc, sans arrêt, se réadapter par rapport à nos munitions aussi, c'est ultra important parce que d'un coup, on n'a plus assez de balles pour un type d'ennemi qu'on avait prévu. Enfin, on est tout le temps en train de.
Puis après, il y a les combinaisons de ces ennemis qui vont changer, ou tout d'un coup, c'est très jeu japonais où on va être confronté d'abord à un ennemi à l'unité, une découverte, on va devoir trouver une solution. Puis après, il y a des combinaisons de ces ennemis qui vont se faire.
C'est un peu le syndrome du mini-boss la première fois, mais c'est ensuite, ça sera l'ennemi de base.
Après, voilà, exactement.
Ouais, mais il y a vraiment ce côté poussé des comportements. D'ailleurs, quand tu parlais de ça, ça me faisait penser, on va revenir un peu à Monster Hunter, mais il y a vraiment chez Capcom cette culture de savoir... donner des attitudes, oui. Des patterns, enfin ça me fait même remonter à Megaman quelque part, au boss de Megaman ou toutes ces choses là où
Ouais. Mais surtout, dans ce Resident, bon, on en parlera sûrement après, il y a encore un paramètre de plus qui est rajouté à la variété des ennemis ou des patterns, etc. C'est le pattern humain.
C'est-à-dire, tu dis par rapport aux ennemis, tu dis
bah, par rapport aux ennemis, parce que je sais que de la manière dont laquelle vous jouiez peut-être pas avec les intrusions de.
Ah oui,
alors attends, ça on y vient après, c'est dans la partie multijoueur. Ça, effectivement, c'est de la boulette, mais c'est dans la partie d'après. Là, on va juste. Je voulais juste parler justement parce qu'on parlait des campagnes, parce qu'il y a 4 campagnes différentes, on verra ça dans l'histoire. Mais juste au point de vue de gameplay, parce que dans les critiques, personne n'est d'accord. Il y en a qui disent que de toute façon, les 4 campagnes, c'est toutes les mêmes. Et puis, certains sont plutôt de l'avis qu'elles sont quand même bien différentes et bien tranchées. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un feeling à chacune, la première, ce côté très un peu plus Resident Evil à l'ancienne avec Léon, que souvent les fans de la première heure c'est la seule partie du jeu qu'ils acceptent de dire qu'elle est à peu près potable. Et puis après, la deuxième partie plus militaire, on utilise plus les couvertures, on tire de plus loin et avec les javots avec Chris. Et puis la dernière, que moi j'ai beaucoup aimé avec le personnage de Jake, qui lui est beaucoup plus corps à corps. Et vraiment, j'ai senti une différence de feeling entre les différentes campagnes. Je sais pas vous, comment vous l'avez ressenti ?
Clairement, il y a une différence, il y a une évolution tout au long du jeu. Par les ennemis, comme tu disais, par le type d'approche qu'on va avoir, par les capacités des personnages qui vont changer aussi. Et puis aussi par notre skill qui évolue, mine de rien. Si on regarde le jeu dans l'ordre, au début, moi, je galérais complètement. J'ai continué à galérer quand même, mais on a quand même plus de skill. On commence à prendre vraiment les choses en main. On expérimente plus de choses. Tout ce qu'on a vu dans la première campagne, on va pouvoir l'appliquer pour la deuxième. Et ça, c'est assez intéressant aussi.
Et puis, Capcom, on est parfaitement conscient parce que de tout ça, vu que la quatrième campagne...
Quel enchaînement,
va vous confronter à tout le panel des ennemis que vous avez combattu devant les 3 premières, et puis vous jouez donc Ada, donc cette sorte de super agent un peu mystérieuse MILF aussi, la MILF, et en gros qui dégage une sorte de professionnalisme absolument terrifiant. Et du coup, ce qui est génial, c'est que comme vous êtes préparé par le gameplay des 25 heures de jeu que vous avez fait avant, le professionnalisme vous l'avez acquis aussi de votre côté, donc vous allez tout d'un coup détruire des monstres que vous aviez galéré les premières fois avec Chris ou avec Léon, puis là vous maîtrisez tout, vous voyez les patterns, vous voyez les points faibles, et du coup ça y a une équation qui est tout à fait équilibrée entre le gameplay et puis le personnage, quoi. C'est génial.
C'est un truc aussi que j'ai vraiment ressenti. C'est génial, vraiment dit, c'est la classe. J'arrive à faire ça, ce personnage envoie et moi j'envoie.
J'ai rencontré un mec qui par pas de bol avec, je sais pas, cette décision de Capcom de débloquer maintenant la campagne pour tout le monde, le mec a commencé par la campagne d'Ada, quoi. Donc
ça serait dur,
donc non seulement narrativement mais plus au niveau gameplay, le mec il s'est niqué le jeu, quoi.
Et puis excuse-moi, donc je vais peut-être t'aider, donc parce que c'est vrai qu'il y a les personnages, c'est ça que tu voulais parler, les fameux personnages.
Alors les personnages, tout ce qui est histoire, on en parle après.
Gameplay.
Ah, gameplay, ouais, vas-y.
Parce que les personnages sont très différents, on en parlait tout à l'heure. Les personnages ont tous en fait, on s'en rend compte en jouant peut-être plusieurs fois le jeu, où à chaque fois, dans chaque chapitre, les personnages ont à chaque fois une façon de jouer. C'est vraiment une sorte de rooster de jeu de combat, quoi.
C'est assez juste.
Où ils ont tous leurs points forts, leur équipement, et du coup, ça change beaucoup l'expérience de jeu.
Ils changent la gestion de l'endurance.
Exactement. Sans parler de ce qui se passe, on dit pendant les campagnes, qui vont faire que les chemins se séparent et puis qu'il y a des phases de jeu différentes. Mais vraiment, les personnages sont construits comme vraiment des personnages uniques, avec leurs points forts, leurs points faibles et la façon de jouer optimale, quoi.
Et puis on se rend bien compte en coop, c'est justement le prochain thème qu'on va aborder. Je vais déjà dire ce que je voulais dire, puis après j'enchaînerai. Mais justement, on se rend bien compte là que les personnages sont très différents quand on joue et complémentaires, qu'il faut s'aider de l'un de l'autre et puis qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est effectivement très réussi. Donc on va parler du coup un petit peu du multi. Donc moi, je l'ai fait que en coop, puis là on en a déjà un petit peu parlé avec Greg, mais j'ai vraiment pris un pied monumental, comme j'ai déjà dit, avec vraiment à deux, c'est vraiment ses ennemis, les attitudes à gérer, s'organiser, enfin vraiment c'est chouette, les trucs à faire en coop sont bien vus, les différents chemins qu'on prend,
il y a toujours une tension qui se met, chaque fois qu'on est séparés, il y a toujours une tension géniale. De mon côté, je dois réussir mon truc, il faut que je passe, si je meurs, c'est game over, et le côté t'es en train de dire, j'espère que lui va aussi gérer le truc, il y a vraiment un côté coopératif limite un peu compétitif aussi. Moi c'est bon, j'ai réussi, toi t'as réussi, qui se met en place, et c'est vraiment très très chouette.
Ouais, et puis ça multiplie encore, moi, cette chose que j'aime beaucoup, cette gestion des ressources, de gérer ses munitions pour les différentes armes, de faire attention.
Oui, c'est juste.
Ça multiplie encore, ça rajoute un facteur à cette gestion. Je me rappelle quand je jouais avec toi, Sandro, moi, ouais, j'avais déjà fait le jeu une fois tout seul. Donc j'avais tendance à laisser un peu plus les munitions, et puis comme j'étais plus à l'aise au départ, ouais, pendant la campagne de crise, particulièrement, oui, oui, avec le système de corps à corps, ben j'ai allé au couteau, j'y allais avec le minimum de mun, et puis je te laissais un peu plus. Oui. En plus, ce qui est génial, c'est que ça marchait avec le gameplay. Moi, je jouais Chris, qui était le chef de le, oui, mentor,
c'était
du jeu.
Oui,
ça marche. Ouais, c'est, enfin, ça,
c'était,
c'est génial.
C'était très très bien. Pourquoi tu riais, toi, tout à l'heure?
Parce qu'on parlait de munitions.
Oui.
Et puis.
Ah, moi j'y jouais avec quelqu'un qui avait tendance à un peu monopoliser toutes les munitions, et puis qui est un fan des anciens Resident Evil, et puis qui a peut-être pas, enfin voilà, comme moi au début où j'utilisais pas forcément beaucoup le corps à corps, et puis tu gardes cette espèce de gameplay que t'as des anciens Resident, et t'as tendance à utiliser que le pétard, et puis voilà, bon, j'y ai joué, j'ai fait des petites sessions de temps en temps avec un pote. C'est vrai que si t'es pas croché complètement dedans, et puis que tu, comment dire, que tu vois tout de suite qu'au final, c'est un jeu où tu vas te battre au corps à corps et utiliser ton pétard dans certaines situations ou contre un certain type d'ennemi, tu vas pas forcément avoir le même plaisir que si tu le fais avec quelqu'un, enfin que tu le fais avec quelqu'un qui va jouer de la même manière que toi.
Oui, c'est le problème du
coup.
Oui,
bon, bah là, toi, forcément, tu t'es trouvé le plus gros boulet de la terre. C'est pas, voilà, pour le coop, ça dépend aussi beaucoup de la personne avec qui tu joues, hein, le multi.
Non, moi d'habitude, ouais. Enfin voilà, jouer avec cette personne, c'est toujours la même chose. C'est dès qu'il y a un moment de gameplay où tu dois faire du défensif, c'est la première personne qui va courir dans le tas, qui va claquer. Et dans un jeu comme ça, en plus, ça pardonne pas, parce qu'il y a des passages qui sont méga, enfin ils sont pas méga chiants, mais dès le moment où tu claques, tu dois te retaper. Voilà, oui, moi j'ai ce passage.
Alors on va parler des passages chiants juste après. On finit juste avec le. J'aimerais juste que tu. Parce qu'il y a d'autres modes multi. Je crois que. Je sais pas, Sam, toi, si t'as eu l'occasion, mais Greg, je crois, y a joué un peu plus. Alors, il y a le mode mercenari standard, mais il y a un mode que Greg a joué qui, moi, je trouve est vraiment cool.
Ouais, qui est super drôle. En fait, c'est un mode. Je sais plus le nom maintenant de ce mode de jeu. Mais c'est un mode où, en fait, tout simplement, vous pouvez. Il faut être connecté, bien sûr, à Internet. Et vous pouvez en fait décider d'envahir, entre guillemets, un peu la Dark Souls au final, les parties d'autres joueurs en fait, qui jouent sur le net. Donc tout simplement, il faut que ces joueurs aient actionné l'option, parce qu'on peut bien sûr désactiver cette option. Mais donc du coup, à n'importe quel moment, si les joueurs qui jouent leur campagne standard, ils sont connectés à Internet et qu'ils ont activé l'option comme quoi ils étaient ouverts, ils peuvent à tout moment se faire envahir en fait leur partie par un autre joueur qui va prendre possession des ennemis du chapitre en cours. Et qui va pouvoir en fait tout simplement essayer de les zigouiller.
C'est cool.
Et ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas en fait. Je me souviens plus s'il y a un message, mais je suis même pas sûr. Peut-être qu'il y a un message, mais
il y a un message.
Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'on voit pas parmi en tant que joueur quand t'as une horde de zombies qui te fonce dessus. S'il y en a un, on sait pas.
Tu vois juste des médailles qui s'affichent à droite,
ouais,
avec les personnes qui rentrent dans la partie et leur XP, enfin leur grade.
Leur grade.
Mais tu vois pas qui est qui.
Et du coup, ça c'est assez génial parce que ça rajoute. Bah, déjà en tant que joueur de passer du côté des monstres, c'est assez cool parce qu'on se rend compte en plus. Le gameplay est pas tout le temps parfait, mais on se rend compte que de jouer ces monstres qui ont ces attitudes très travaillées, c'est vachement intéressant. Et puis surtout, ça nous donne un autre angle, un autre regard sur ce qu'on a joué en tant que joueur héros quelques heures auparavant, où tout d'un coup, là, on regarde tout ça, ça nous remémore des choses, on se dit à son droit, c'était horrible, c'est pas possible, et vous allez en remettre une couche en tant que méchant.
Ouais, c'est ça. Puis il dira, je le chope là, parce que c'est le pire moment.
Ouais. Ouais, donc il y a des moments assez magiques comme ça, c'est perfectible, hein, c'est pas encore nickel au niveau gameplay et autres, mais je trouve l'idée hyper ambitieuse.
C'est une très grande idée. Et pour mêler un mode multijoueur à un mode solo sans barrière, sans rien. Enfin,
de nouveau,
c'est
le passage du single player au multiplayer. C'est
toujours à la japonaise.
Ouais, de nouveau, enfin dans le même style un petit peu que Journey. C'est dans le cours du gameplay. Il y a pas d'interruption, il y a pas de menu où tu
et
vas dire maintenant.
Les joueurs ne peuvent pas communiquer.
C'est ça qui crée
quelque chose de qu'on n'a pas exploré, qu'on a très peu exploré.
Qui garde en tout cas l'immersion et voir qu'il la renforce.
Ok, bon, alors on va passer aux merdouilles. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu bancales. Il y a vraiment des passages moins réussis que les autres. Moi, j'ai en tête quelques-uns, enfin, entre autres, un dans la neige.
La course en jet ski.
La course en jet ski. Et C'est marrant parce que en faisant des recherches pour ce podcast, en préparant le podcast, je suis tombé sur une interview du producteur de, sur Gamasutra où il expliquait qu'ils ont changé leur façon de travailler de celle habituelle où normalement, en fait, c'est, ils avaient des grosses contraintes d'argent et de temps pour cet épisode et du coup, ils ont changé l'organisation en se disant à la place, en fait, ils ont fait des micro-équipes. Plein de petites équipes où à la place d'avoir une grosse équipe qui s'occupe de l'ensemble du jeu, bah là ils ont subdivisé et puis il y avait un level designer pour chaque équipe et du coup bah, c'est peut-être là où on retrouve dans le jeu ce côté très saucissonné où c'est comme s'il y avait plein de petites parties de jeu appendues les unes aux autres.
Et de qualité différente.
Et voilà, et ça explique peut-être le côté qualité différente qui fait que des fois on se retrouve quand même à des moments de merde.
Ouais, et le partage. C'est marrant, je partage pas trop cet avis, mais
le truc dans la neige là.
Oui, le truc dans la neige. Oh, oui, effectivement, ce truc dans la neige est un vrai passage qui fonctionne pas.
Ouais, ça marche. Oui, il faut, on voit à 2 mètres, puis il faut chercher des clés ou je sais pas quoi. Là. Heureusement que j'avais Greg. Heureusement que j'avais Greg parce que moi, j'étais attendre à la sortie, puis il était les chercher parce qu'il il s'était déjà pété la tête une fois là-dessus. Mais ça, c'est le genre de truc qui me serait tombé des mains.
J'ai galéré un moment. J'ai pas eu beaucoup plaisir avec ce passage-là. Il y en a, c'est clair qu'il y a 2-3 passages dans le jeu de ce genre-là qui sont un peu ratés, qui essaient des choses mais qui ne marchent pas. Tandis que d'autres alors essaient aussi et marchent très bien.
Mais ils ont la gentillesse de ne pas se répéter, au moins.
Ils ont la gentillesse, c'est la générosité. Je trouve que, alors moi j'ai plein de passages, il y a plein de moments où on conduit des véhicules, des voitures, des jeeps militaires là, dans les campagnes de Chris, et puis il y a un joueur qui tire à la mitrailleuse pendant que l'autre conduit. Et c'est des passages, si on se concentre sur ce qu'on voit concrètement à l'écran, c'est pathétique. Parce que vous êtes à Hong Kong, sur des autoroutes qui ont des dimensions, enfin sur des routes qui ont des dimensions qui n'existent pas.
Les mêmes que
avec des sortes de barrières tout le long de la route. Les barrières, c'est très bizarre. C'est quelque chose de complètement surréaliste, presque old school à ça. Mais je sais pas, moi j'aurais trouvé un certain charme.
Non, mais on est d'accord, si on rentre dans le processus de bah, le côté, le scénario, on va après aussi renforcer ça, le côté Z à mort. Oui. C'est pas, si on est dans cette posture-là, c'est même plutôt sympathique.
Oui, moi j'ai trouvé.
Mais c'est là où je comprends quand même les tests des fois qui disent que c'est inadmissible. Quand on est sur cette posture, le jeu vidéo, le triple A, ça doit envoyer du pâté, on doit en prendre plein la gueule. Quand on
tombe, qui doit envoyer,
qui doit envoyer des graphismes superbes et tout. Effectivement, quand on tombe là-dessus, je peux comprendre qu'on ait un moment de oh putain mais c'est quoi, c'est un jeu c'est un jeu indé ou
c'est pour ça que c'est un jeu qui est vraiment très désagréable à regarder,
vraiment
à regarder jouer. Ouais. La preuve, nous on l'a vu en avant-première il y a environ un an, on s'est dit mais c'est quoi ce machin, c'est insupportable, ça va être une bouse, et par contre une fois qu'on l'a en main, ça c'est complètement différent. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont basés sur des vidéos qu'ils ont vues, des extraits de gameplay, etc. Mais c'est vraiment
sur la démo qui est presque spectateur.
Mais de l'avoir en main, ça n'a rien à voir avec l'aspect plus juste visuel.
Est-ce que ce n'est pas la signature des bons jeux ?
Ben, j'en suis convaincu.
Ouais, parce que on retrouve sur le problématique de est-ce qu'un jeu forcément sexy à avoir pas joué, c'est-à-dire avoir une cinématique ou avoir à regarder jouer.
C'est même pas sexy, c'est juste chiant.
Non, mais est-ce qu'un jeu justement qui l'est est forcément un bon jeu? Souvent, on a l'impression, les gens sont attirés quand tu regardes et puis que ça pète et puis que c'est beau et puis que ça t'amuse.
Je pense juste qu'il n'y a pas de relation, forcément. Enfin, c'est pas.
Y a pas de. Voilà, mais c'est-à-dire. Que ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à condamner un jeu qui est pas beau, qui est pas sympa à regarder en fait. Alors que putain, on parle de jeux vidéo quoi.
C'est une question un peu fondamentale. Est-ce que c'est toujours ce qu'on disait avant, c'est qu'est-ce qu'on sacrifie pour le gameplay d'un point de vue visuel, quand on parlait des animations tout à l'heure au début dans Resident Evil 6, et puis qu'est-ce qu'on garde et puis qui peut embellir le jeu d'une certaine manière. Mais c'est vraiment quelque chose. Il y a toujours cette position quand tu joues au jeu. Moi j'ai tendance à oublier ces notions d'animation fluide et des choses comme ça. Par contre, effectivement, quand tu regardes, tant que t'as pas la mettre en main, ouais. c'est du jeu vidéo, c'est le but du jeu vidéo, c'est de l'expérimenter, c'est de le jouer.
Mais oui, vas-y.
Oui, d'accord. Je veux juste dire aussi que dans les trucs, des défauts quand même, c'est qu'il y a vraiment trop de QTE.
Je suis parfaitement d'accord.
Vraiment.
Mais je voulais juste dire un truc sur le truc d'avant.
Pardon.
Non, mais juste avant que tu passes, on peut parler après ça. Mais je disais juste, c'est un peu la problématique pour moi du triple A occidental aujourd'hui. C'est, on sent malheureusement, qu'ils ont très bien compris qu'un jeu, pour se vendre, il doit être avant tout très sexy à regarder, faire des très jolis trailers, parce que sinon il va pas se vendre. Et puis du coup, les mecs rament pour faire des trucs sexy à voir, quoi, à la place de ramer pour faire des gameplays intéressants. Et je peux comprendre que quand on a 50 millions de budget et qu'il faut pas se péter la gueule, tu t'essayes de minimiser les risques. C'est tout à fait compréhensible, mais malheureusement, pour le joueur, je suis pas sûr que le joueur s'en sorte forcément gagnant au final. C'est ça qui est dommage. Et des fois, j'ai l'impression que la presse la presse spécialisée, des fois, tombe malheureusement un peu dans ce piège-là du waouh, est-ce que c'est beau, le buzz se crée, toutes ces choses-là.
Après, les joueurs prennent énormément de plaisir aux jeux que nous, des fois, on porte pas dans notre cœur, comme certains. Ouais. Last of Us, des choses comme ça. Donc, les joueurs s'y retrouvent. Pour eux, c'est des grands jeux.
C'est vrai.
Après, effectivement, c'est peut-être une route un petit peu biaisée dans la découverte de ce qu'est le jeu vidéo, dans ce qu'on considère comme étant la chose la plus intéressante du jeu vidéo. Mais n'empêche
mais
que.
Mais ça va un peu avec son temps, tout oui. ça. À l'époque, si tu prends par exemple les jeux indés, ils sont pas forcément beaux, mais il y en a beaucoup qui ont des gameplays très intéressants. Et tu vas pouvoir jouer à l'alpha, à la bêta, et déjà la toucher avant, puis passer outre ce côté peut-être un peu dégueu et râpeux. Maintenant, tu regardes la plupart des productions AAA, c'est sûr que tu les vois. Enfin, tu vois des teasers et des trailers tellement longtemps à l'avance sur Internet. Enfin, on te submerge d'images et autres ad vitam aeternam. Donc, au final, la qualité visuelle, c'est la première chose que tu vas voir. C'est la première chose à laquelle les joueurs qui seront potentiellement de futurs acheteurs vont faire attention.
Ouais, ouais. Mais c'est bien dommage. Oui,
QTE.
Bon, à part ça, rapidement, parce que oui. Je me rends compte.
Non, très rapidement, je vais juste dire que toutes les cinématiques qui m'ont fait beaucoup rire pendant tout le jeu, qui ne sont pas un problème en soi. Par contre, le fait d'être submergé de QTE tout le temps, c'est des trucs assez pénibles à faire, voire de rater des séquences entières à cause d'un QTE mal placé, ça c'était très bien. Par contre, celles qui sont intégrées au gameplay sont pas mal du tout, j'ai trouvé.
Moi, il y a un truc qui m'avait saoulé, excuse-moi de couper la parole, c'est quand tu meurs. C'est des fois de devoir te retaper des scènes qui sont hyper chiantes.
Oui, on va pas rentrer dans les détails, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc de sauvegarde où on a pris longtemps à comprendre. Enfin bref, mais il y a un problème de sauvegarde qui est pas clair. Bon. Après, les QTE, je pense que c'est marrant parce que je pense qu'on est vraiment encore dans ce problème. Il y avait déjà ça dans le 5, dans ce problème de l'héritage de Resident Evil 4 qui a mis tous ces programmeurs, les producteurs dans leurs petits souliers parce qu'ils devaient passer après ce monstre qui a été tellement.
Que encore aujourd'hui,
qui est encore un monstre.
Resident Evil 6, on continue à.
Voilà.
À encenser.
Voilà, qui est le Resident Evil un peu avec le 1, qui est peut-être le Resident Evil le plus aimé. Et du coup, il y avait c'est ce jeu qui avait apporté ces fameux QTE dans les cinématiques qui te forçaient à rester attentif, même dans les cinématiques.
C'était super dur, selon lesquels c'était vraiment très dur.
Mais c'était il y avait une sorte de choc, c'était très intéressant. Et là, du coup, tu sens qu'ils ont cet héritage dans les mains, ils savent pas trop comment le gérer. Et puis, du coup, en plus du jeu moderne, le jeu vidéo moderne qu'il faut des QTE un petit peu à tort à travers, il y a un petit peu ce carrefour qui fait qu'effectivement, il y a un peu trop de QTE et des fois, ils sont pas malins du tout. On se souviendra de l'hélico. Quand il s'agit de tourner à gauche, on te fait mouliner un stick
à
360 degrés.
C'est magique.
Ou t'appuies sur X rapidement alors qu'on te dit juste tu vas à gauche. Voilà, ça marche pas.
C'est complètement con. Bon, passons à l'histoire. Juste un point sur l'histoire. C'était parce que j'ai l'impression, je vais quand même vous travailler là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un malentendu générationnel avec l'histoire de Resident Evil. Comme dans beaucoup d'autres médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup disent oui c'est devenu n'importe quoi, l'histoire elle part dans tous les sens, comme on parlait de scènes complètement, effectivement il a des scènes magiques où on a ri avec Greg, une scène où c'est quoi, c'est Chris qui débarque pour sauver Léon. C'est qui débarque pour sauver Hong Kong et qui s'écrase avec son avion et puis qui rase moitié des immeubles de la ville et puis il vient sauver les gens, enfin à mourir.
Tout
de
ça en balançant une punchline.
Tout ça, une grosse punchline de film d'action à la con et c'était magique quand on a trop ri. Mais justement, oui, à mon avis, Resident Evil aujourd'hui c'est n'importe quoi, mais hier c'était n'importe quoi déjà. Et à mon avis, simplement on a grandi. Et ce qui avant, quand le premier est sorti, on était là, wow, c'est trop classe.
C'est n'importe quoi qui rentrait dans les mœurs.
Non, c'est pas. C'est simplement qu'en grandissant, t'as un recul sur les choses qui fait que ben ça, voilà, ça fait nanar. Alors que quand t'es petit, ben c'est waouh, c'est trop cool. Moi, j'ai un peu cette sensation aussi avec. J'avais cette sensation avec Star Wars aussi. Des fois où certains disent ah ouais, mais les nouveaux, c'était. C'est les autres, ils étaient beaucoup plus classe, ils étaient beaucoup plus. Enfin, alors après, moi, je connais bien les films.
Oui, alors, donc, mais, attention danger. Là,
attention, non, attention danger. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça où on a un souvenir d'enfance, oui. Où on a cette impression de waouh, que le scénario est waouh, puis ben en grandissant, ouais. On lit plus de choses, on joue à plus de choses, on voit plus de choses, puis on se rend compte bah, que c'est du nanar, quoi.
Mais il y a comme tu dis, il y a l'enfance, il mm-hmm. y a son enfance, puis il y a aussi le contexte historique de l'époque mm-hmm. où Grandiante est sorti. Ils ont créé un genre, même si le genre voilà. avait déjà été effleuré par des précurseurs, mais là ils ont créé un genre et du coup on pardonne aussi, et c'est un choc. Et c'est comme tu prends les premiers films d'épouvante des années, je vais pas faire mon histoire du cinéma parce que j'ai plus les dates ni rien, mais tu prends des vieux films d'horreur des années 30 ou les premiers, tu avais La Créature du Lac Noir et choses comme ça. À l'époque, les gens étaient terrifiés parce qu'ils acceptaient d'être terrifiés par cette créature en latex, parce que voilà, il n'y avait pas d'autres références. Mm-hmm. Mais maintenant, tu la regardes, alors il y a le charme désuet d'époque, ça peut être des très grands films, mais ça fait plus peur. C'est une ouais. évidence, ça fait plus peur. Mm-hmm. Et ça devient un peu, c'était récupéré par les nanars, par les choses comme ça, ce genre de créatures. Ouais. Donc Resident Evil, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Avec,
okay. Je suis d'accord avec ça, vraiment. Mm-hmm. Je pense qu'à l'époque, on avait très peu de références du même exactement. Genre, du coup, c'était beaucoup plus facile pour nous d'accepter ça au premier degré.
Ça, plus notre âge.
Plus notre âge, évidemment. Ouais. Enfin, les deux font que c'était, moi j'ai pris ça au premier degré. J'avais les chocottes sur le 1, je me souviens, j'avais vraiment les chocottes. Là par contre, effectivement, on a grandi, on a beaucoup plus de références. Et tout le scénario de Resident Evil 6, j'ai pu le prendre au second degré tout le long et je me suis éclaté tout le long. C'était tellement du grand n'importe quoi. Enfin,
mais je me demande si un ado d'aujourd'hui, que je sais pas, 13 ans, comment est-ce qu'il percevrait le scénario de Resident 6 en fait.
Alors, ce qui m'intéresserait plus de voir, c'est comment est-ce qu'il percevrait le scénario de Resident Evil 1.
Ça, moi, j'ai comme petite anecdote que je trouve intéressante, ouais. C'est que t'as sur Gameblog, il y a Piv, ouais. Qui est un ancien rédacteur de Mad Movies, qui a un blog sur Gameblog, oui. et qui à l'époque a testé Resident 6 et qui crie son amour pour le jeu, uh-huh. d'un point de vue, parce que c'est un cinéphile, donc d'un point de vue un petit peu du cinéphile, ouais. Et lui justement, il hurle au génie. Pour ce côté nanar, ouais. Je crois qu'il y a aussi une question de sensibilité, ouais. Et effectivement. Ça paraît évident si on connaît un petit peu ce côté série B et de ce type-là, et même si on a ne serait-ce que vu une fois un film Resident Evil, la saga, ce qu'elle est devenue, ouais. Comment attendre autre chose qu'un film série B, quoi. Comment
ouais. Bah, il le fait bien, donc on passe à la suite parce qu'on est...
Avec plaisir, allons-y.
Le dernier sujet que j'ai choisi, c'était sa place dans la série. Comme on a vu dans l'intro, quand on parlait un petit peu de la série, l'épisode 4 a fait dériver la série vers l'action, ce qui a scandalisé plus d'une personne. Du coup, il y a énormément de gardiens du temple, comme Greg les appelle, qui hurlent à la mort face à ce Resident Evil qui enfonce le clou planté par le 4. Oui, le Resident Evil d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier, mais est-ce qu'une série se doit d'être absolument fidèle à sa lignée, à votre avis ?
Certainement pas. Bah, comme on vient de le dire pour le scénario, c'est que ça s'inscrit forcément par rapport à une époque, par rapport aux autres standards et par rapport aux expériences des joueurs sur une époque. Moi, franchement, ça m'aurait. J'ai rejoué au Revelation que je trouvais sympathique, qui est beaucoup plus proche du gameplay de base, mm-hmm. mais j'ai trouvé ça pénible. Quand même plutôt pénible. Alors oui, un peu de nostalgie a surgi comme ça, mais c'est clairement un gameplay, pour encore avoir vu des extraits de gameplay du 1 et du 2 il n'y a pas longtemps, ça ne fait plus du tout envie, vraiment pas. Alors j'ai adoré cette période-là, j'ai adoré le découvrir, mais j'en ai plus envie maintenant.
Mais bah, je pense que c'est... Tout dépend de l'envie au final des auteurs qui sont derrière ces jeux. Qu'est-ce qu'ils ont envie maintenant de transmettre aux joueurs et au public. Encore une fois, je prends l'exemple des films d'horreur. Les choses qui faisaient peur il y a 40 ans ne font plus peur pour la plupart aujourd'hui. Donc au bout d'un moment, quand c'est une série au long cours comme Resident Evil, c'est normal qu'ils essaient de faire évoluer la formule parce que les gens évoluent, les joueurs évoluent, les jeux, le contexte des jeux, comme on disait avant, évolue aussi au fil des années. Donc il n'y a pas... Je pense que après la jeu vidéo reste aussi un produit, surtout qu'on parle de triple A comme Resident Evil, mais je pense qu'il faut leur laisser vraiment cette liberté, cette marge de manœuvre. Enfin, je vois pas
De toute façon, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Si tu gardes le même gameplay, il y a des gens qui vont crier à la non-nouveauté et qui vont dire on en a marre de toujours voir la même chose. Et puis de l'autre côté, dès que tu casses le moule et que tu as envie de sortir quelque chose de nouveau, les gens se plaignent.
Mais le problème, je pense, moi, ce qui me choque au final là-dedans, tout ça, c'est pas tant les joueurs, comme je dis, il y a des gardiens du temple, ma foi, les fanatiques, les fanboys, il y en aura partout, il y en aura toujours, et ils ont leur utilité aussi, mais c'est plus les journalistes, les critiques, qui justement n'ont pas, eux, à se mettre en position de gardien du temple, ou en tout cas, c'est.
Qui sont eux souvent voilà, en position de fanboy.
Exactement, alors qu'il faut être en position de critique, et puis comme le fait Boulon dans Canard PC, au final, ou le gars de jeux.com, qui vraiment arrive à avoir une sorte de recul et à juger le jeu pour ce qu'il est. Mmh. C'est-à-dire un vrai bon jeu.
Mmh. Ouais, sans tous le poids de ses ancêtres derrière lui.
Exactement.
Qu'est-ce que ce jeu vaut maintenant à ce jour-là? On efface tout ce qu'il y a autour et on regarde ça.
Oui, un peu comme la série Castlevania qui a exactement le même problème où on lui reproche de changer, on lui reproche de... Alors que mon point de vue, je pense aussi d'un point de vue du développement, si les mecs doivent développer un jeu pendant 3 ans et puis qu'ils le développent pour faire plaisir à des gens à la place de eux pendant 3 ans, faire ce qu'ils ont envie de faire... Franchement, le résultat a peu de chances d'être passionnant. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
Finalement, ces gardiens du temple, pour reprendre votre terme, ils seront jamais satisfaits. Il y aura toujours un truc qui ne jouera pas. Donc, autant garder ces jeux-là dans les mémoires, dire jouer si on le souhaite par nostalgie, par plaisir. Mais
il y a un contre-exemple magnifique, monsieur Nintendo. Regarde les gardiens du temple, ils sont heureux.
Oui, c'est encore un autre débat. Ça joue sur d'autres choses aussi.
Non, mais par exemple,
je provoque.
Ce que j'aime, c'est tu es pénible. Tu es très pénible.
Mais tu prends aussi, il faut juste dire aussi des fois à ces gens, le maître d'œuvre qui était derrière Resident Evil 4, qui est tellement adulé, il est plus là. Mm-hmm. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que doivent faire ceux qui suivent? Est-ce qu'ils doivent essayer d'émuler ce qu'avait fait ce personnage qu'un auteur, quoi? Mm-hmm. Est-ce qu'ils doivent essayer de courir après cette chimère, ou est-ce qu'ils doivent prendre des directions un peu différentes? Je dis pas que c'est un jeu d'auteur, Resident Evil 6, c'est évidemment pas le cas. Maintenant, je pense que
d'où le fait que le 4 est adulé à mort parce que c'est son dernier.
Oui, c'est le dernier. Et puis c'est vrai qu'il y a une empreinte, il y a quelque chose par rapport à la série. Mais c'est aussi un jeu qui a bouleversé. À l'époque, des gens n'ont pas aimé non plus parce que justement, il renversait les trois premiers épisodes, les conventions. Je pense qu'il faut juste là les laisser. Et puis. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, cette situation un petit peu de révérence par rapport au 4, et puis en même temps d'aller dans. Je trouve que ça donne aussi ce caractère à Resident 6, qui est un jeu un peu monstre comme ça, un peu.
Oui, on sent qu'il est perdu entre tous ces.
C'est un peu le bâtard de Resident Evil.
Ouais, mais les bâtards, c'est ce qu'il y a de plus joli.
Mais tout en
attachant au final, tu vois.
Tout en allant quand même au bout des idées.
Ah, au niveau du gameplay.
Au niveau des gameplay. On sent qu'ils ont voulu, effectivement, il est un peu torturé à partir. Mais quelque part, il y a. Pour moi, au niveau du gameplay, il est bien plus efficace que Resident 4. Enfin voilà, je sais que.
Plus soi.
Certains.
Tu les compares côte à côte, c'est évident.
C'est Resident 4 aujourd'hui est pas du tout aussi bien foutu que le 6 au niveau gameplay, il est vieillot quoi. Dernière chose rapidement, et puis après on en aura fini parce qu'on aura été long, contrairement à ce que je croyais sur Resident 6. Je me suis dit ah super, on va faire un petit podcast court. Super, on est déjà à 1 heure. La dernière chose que je voulais parler, mais je trouve que c'est intéressant à aborder, c'est le genre global du survival horror. On voit que même Dead Space, qui est une série relativement récente, a dérivé aussi vers l'action. Est-ce qu'il y a un problème avec le survival horror?
Je pense qu'il y a un problème avec la peur, le sentiment de peur déjà. C'est que on a trop de références, on connaît plein, les choses qui marchaient à l'époque ne marchent plus. Et du coup, comment réussir à continuer à trouver des gameplays, enfin des jeux, qui continuent à faire peur? Certains arrivent, je pense à Amnesia par exemple, j'ai tenu 5 minutes avant de hurler, partir en courant, mais c'est vraiment, ça devient vraiment des jeux de niche, c'est vraiment plus des expériences que vraiment des jeux, enfin pour moi.
C'est sûr que si t'as envie de vendre des jeux à foison, il faut pas que ça fiche trop les jetons, c'est ce qui avait été un peu évoqué avec le changement de direction du dernier Dead Space.
Alors ça, moi, je pense que c'est une grosse connerie parce que par exemple, je suis désolé de faire chier avec des parallèles avec le cinéma, mais là on parle de marché d'une certaine manière. Mais le cinéma d'horreur est par exemple un marché extrêmement rentable qui se vend en plus, qui se vend à l'international monstrueusement bien. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une fausse.
Quand on voit la popularité de Silent Hill encore aujourd'hui, alors qu'il y a plus des jeux incroyables qui sortent, mais il y a beaucoup de gens, nous, on voit en magasin des gens qui demandent après Silent Hill et des gens qui jouent à Call of Duty, enfin des gens vraiment qui jouent occasionnellement aux jeux vidéo. pas des gros joueurs de jeux vidéo. Donc il y a je pense qu'il y a quand même encore, mais
le problème c'est peut-être le genre survival, parce que ce qui est marrant c'est qu'on dit survival horror, on parle pas d'un jeu d'horreur, de survival horror, c'est-à-dire que vraiment avec cette formule de l'économie des ressources comme on disait avant, voilà, il y a quand même ce côté.
Parce que justement, le survival horror aujourd'hui, c'est pas tous ces nouveaux roguelikes qui sortent avec DayZ ou bien avec tous ces qui exploitent un peu le côté zombie et puis mort instantanément.
Enfin, je crois qu'ils stressent plus. Enfin, je sais pas,
c'est plus des jeux stressants que vraiment d'horreur.
Mais est-ce qu'on se retrouve pas avec l'horreur de Resident Evil, le premier du nom, qui était stressant? Silent Hill est un jeu d'horreur, mais Resident Evil est plus un jeu qui te stresse, qui faisait
peur comme un peu un film d'horreur.
Oui,
quand même, le premier.
C'est vrai.
Mais
ouais.
C'est le premier pour toutes les raisons qu'on a dit avant.
Ouais, c'est vrai.
Mais je crois que encore une fois la peur, de toute façon notre rapport à la peur évolue aussi en parallèle de nos sociétés. Donc le survival horror est peut-être juste un genre qui était de son époque avec les codes vraiment qu'on lui reconnaît. Maintenant il y a des manières d'avoir peur comme tu disais Amnesia, et certainement que le jeu vidéo a plein d'outils pour faire horriblement peur.
Mais est-ce que c'est pas peut-être ça viendra, il y aura des, je sais pas, mais disons
mais il y a plus d'armes, c'est marrant, je pense à Amnesia, je pense aussi à Silent Hill, le Silent Hill, le dernier Silent Hill vraiment excellent qui avait le memory, le comment, le
sur Wii,
celui sur Wii,
le Downpour était très bien aussi.
Celui que j'ai beaucoup entendu parler c'était parce qu'il enlevait justement l'arme où il y a pas d'armes en fait, c'est ces jeux qui font très peur, il y en a beaucoup qu'on se prend comme main de dire voilà on enlève les armes et puis là t'es dans la panique parce que tu peux plus affronter en fait.
Des codes habituels. Ouais. Du coup.
Mais le truc, c'est qu'on t'enlève. Là, on enlève pas complètement, mais on enlève une bonne partie de la gestion des ressources qui fait partie du mot survival.
C'est
survival,
ouais, c'est
donc
clair, c'est
ça
clair,
devient des jeux d'horreur au final.
Mais quand on pense le premier Resident Evil, ça me fait penser tout d'un coup, quelque part, on avait le même problème. Le personnage était très peu maniable, était très lourd.
Ah,
et du coup, on était handicapé face à ces. Et du coup, on était
tous ces jeux basaient énormément là-dessus. Mm-hmm. Parce que justement, on savait, je pourrais pas réagir vite, je pourrais pas faire ça facilement. Mm-hmm. Et du coup, c'était une source de stress et d'angoisse qui était énorme.
Mais c'était d'ailleurs un des arguments complètement bizarres de l'époque de Resident Evil 5 par rapport à un Dead Space, où Capcom disait non mais nous on vous empêche de bouger quand vous visez parce que ça, c'est une mécanique pour créer l'angoisse et la peur. Voilà, j'ai l'impression que Dead Space a un peu plus foutu l'angoisse alors qu'on pouvait se déplacer que Resident Evil 5. Enfin, bon.
Ce serait intéressant de voir ce que c'est Shinji Mikami, c'est ça celui du 4
Oui.
Va faire avec son nouveau survival horror qu'il a annoncé.
Ah oui, le Evil.
Evil Within.
Evil Within. Ouais,
voilà.
Okay.
Peut-être qu'on verra bientôt.
Il y aurait de quoi encore creuser, mais je pense là, on est un peu limite.
S'arrêter là. Très bien.
Ouais, on va aller rejoindre. On va se déplacer dans la pièce, au coin du feu, où nous attend notre petit vieillard. Alors, Papy Yannick, c'est toi ?
C'est
Yannick.
Moi.
Deux mois de suite. Tu vas finir par s'habituer.
je vais bientôt faire comme question pour un champion. Je vais en faire 4 à la suite. Ce sera incroyable.
Et tu perdras tout à la fin.
Non, je vais faire jackpot.
Bon,
alors.
De quoi tu parles aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler un petit peu des trade skills. On avait un petit peu parlé la dernière fois. On avait dit qu'on allait farmer des mineurs pour trouver du minerai parce qu'on n'avait pas envie d'aller le faire nous-mêmes. À l'époque, il y a quelque chose qu'on s'amusait beaucoup à faire avec des potes. On avait tous un personnage voleur parce qu'on adorait jouer un voleur. Et il y avait un endroit tout particulier où on adorait aller, c'était la Lich Lord Room. Parce que la Lich Lord Room, c'était un endroit où les gens allaient d'habitude avec des armes magiques qui étaient des armes silver. Les armes silver te permettaient de faire 2 fois plus de dégâts sur les undead. Et les gens y allaient, dès le moment où tu voyais qu'ils tapaient sur les monstres et que tu avais un petit éclair, tu disais « Ah, le gars, il a une arme silver !» Tu connaissais un petit peu les noms, tu voyais les guildes, tu dis « Ouh, c'est une grosse guilde, ça doit être des armes très sympas !» Donc d'habitude, on allait là-bas avec des potes, on était 2 ou 3, et on se cachait dans la pièce avec nos voleurs, on attendait dans un petit coin, on ouvrait ce qu'on appelle le paper doll du personnage en question, tel un slash inspect, et on cliquait sur l'arme que cette personne avait en main. Et d'habitude, c'était écrit « A magic, whatever it is ». Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans Ultima Online, il fallait encore identifier le stuff magique que tu avais. Tu savais que c'était un item magique, mais tu savais pas les bonus que ça te rajoutait. Donc il fallait soit monter le skill item identification qui te permettait d'identifier.
Il y a combien de skills?
Mais il y en a, mais tellement, mais tellement.
Chaque chose.
Mais c'est ça, qui est beau, c'est qu'au final t'es pas limité à une classe, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Ou alors à ce moment-là, tu utilisais un sceptre magique avec un certain nombre de charges dessus qui te permettait d'identifier les objets magiques. Enfin bon, d'habitude, la plupart du temps, quand on savait que le gars avait du stuff magique, il était dans la Lich Lord Room et qu'on avait vu le petit éclair sur le mob, c'est que ça devait être un truc sympa. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on cliquait dessus pour bien être sûr que c'était du stuff magique et on utilisait, peu importe, un skill qui servait à rien juste pour faire apparaître la cible. Pour avoir une target, on cliquait sur l'arme magique et on attendait que la personne se batte. On allait un petit peu autour, on la bloquait, on la dérangeait jusqu'à ce qu'elle se fasse pourrir par le mob. Et il y a bien un moment où la personne, il faut qu'elle se heal. Donc à ce moment-là, elle rangeait son arme dans son sac et c'est à ce moment-là que le sale coup était fait. La plupart du temps, dès que la personne mettait son affaire, enfin rangeait son arme pour se healer, on courait vers elle, on appuyait sur voler. Là, target, parce qu'on avait targeté son arme avant, et on lui chourait ses affaires. Et la plupart du temps, le mec essayait de rééquiper, rien ne venait, et c'est à ce moment-là où la personne t'attaquait parce qu'elle se rendait compte que.
Mais elle avait plus d'armes.
C'était le voleur, mais elle avait plus d'armes.
Et le mob qui la cognait.
Et le mob qui la cognait. Donc d'habitude, il y avait plusieurs fins à cette histoire. Si la personne nous chasse, si on était avec plusieurs potes, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de prendre l'arme que je venais de voler. Et la poser sur un cadavre environnant de monstres, comme ça au cas où je me fais flinguer, l'arme est toujours là, puis je gueule à mon pote, vas-y, c'est dans le cadavre à gauche, tu peux la prendre, elle est là. Ou alors, dès que la personne s'est fait voler son arme magique par moi, comme je l'ai expliqué les fois précédentes, je suis flagué comme criminel pour lui. Donc ce qui fait, je suis gris, la personne m'attaque, et si t'as un voleur qui est suffisamment balèze, voilà, on faisait des voleurs, mais ils avaient toujours des skills de combat, bah, t'en profitais pour le poutrer. Donc ça,
t'aurais pu à ce moment-là directement lui péter la gueule.
Ouais, mais bon, t'as pas envie de prendre un kill, donc tu commets le petit crime.
Ah ouais, pour après.
Pour qu'ensuite.
Parce que si tu fais un kill, t'es flagué rouge.
Bah voilà, mais dans ce cas-là, t'es un auto PK. Tu commets un petit crime, t'attends que le gars te vienne dessus et là tu le butes.
Voilà. D'accord.
Donc c'était comme ça que ça se passait. On balançait un truc sur un cadavre, les potes venaient le chercher. Enfin bref, d'habitude, on était 3 ou 4 à tourner dans cette salle à longueur de journée pour voler les affaires des autres. Et ce qui était fandard, c'est que vu que les armes circulent entre les joueurs parce qu'elles étaient mortes et que d'autres personnes les avaient lootées ou elles se les étaient fait voler. Des fois, tu te promenais dans le monde, puis tu cliquais sur l'arme d'un mec, puis tu sais pas pourquoi elle était identifiée. Là, tu te dis, mais ça, c'est une arme qui m'est passée dans la main un moment dans ma vie. Ouais, c'est ça qui était génial, tu vois. Donc, le vol, c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. On a fait plein d'autres pièges très vicelards.
Mais ça, c'est fou, cette idée de survivance des armes, des objets comme ça qui vont rester dans le jeu. C'est quelque chose de fou, ça.
Mais ça, c'est quelque chose que tu retrouves plus à l'heure actuelle de nouveau. Parce que les gens, dès le moment où tu as utilisé ton arbre une fois, elle est bindée à toi et personne d'autre pourra l'utiliser. Alors qu'à l'époque, comme j'ai dit, il y avait toute une. Il y avait tout un système de commerce qui tournait autour de ça. Une arme de vanquishing, ça se vendait à un certain prix. Tu pouvais en acheter une à un très bon prix, la revendre par la suite à quelqu'un d'autre. Il y avait vraiment tout un système de commerce.
C'est un moyen aussi de créer des sortes d'armes légendaires. La communauté, tout d'un coup, je pense qu'il y avait des armes tout d'un coup qui étaient.
Il y avait des objets,
qu'elles se baladaient dans le monde et puis qu'on voulait avoir. Et puis.
Tu m'as pas dit qu'il y avait des objets uniques un peu, des choses que tout le monde voulait.
Ouais, il y en a eu sur la fin. Ouais, mais les objets uniques, c'est des trucs un petit peu plus. Enfin, c'est pas vraiment des choses qui te rendent plus fort dans le jeu. Au final, l'objet. À un certain moment, l'objet qui était le plus unique, c'était une paire de sandales noires. C'est rien de plus. Mais c'est vrai, mais c'est rien de plus. Mais ouais, voilà. C'est rien de plus qu'un objet qui était rare.
Star-vue.
Bah voilà, les gens qui avaient une paire de sandales noires, d'habitude, c'était des gens qui avaient un peu tout fait dans le jeu. Parce que pour avoir la paire de sandales noires, je me rappelle, il fallait aller dans une ville.
Ça pète
style. Attends,
j'ai l'impression d'être la pute de Lord British à ce moment-là.
Mais non,
ma paire de sandales noires, j'avais encore.
Non, parce que pour l'avoir, il fallait magouiller, c'est pour ça.
Non, il fallait pas magouiller. La paire de sandales noires, elle spawnait sur un vendeur dans un magasin de magie dans un village très précis. Et d'habitude, il y avait 3 ou 4 personnes qui tournaient autour, chacun essayait d'attaquer le personnage de loin, de la tirer en dehors de la ville pour le friter.
Pauvre vendeur.
Des fois, tu le cherchais, tu disais putain, mais j'ai envie d'acheter des règles, il n'y a pas de vendeur de magie, il est où? Puis tu le prenais autour de la ville, puis tu voyais 3 cadavres parce que le mec tuait les vendeurs à la chaîne pour tomber sur un vendeur qui spawn avec des sandales noires.
Pour looter.
D'accord? Donc le premier item par exemple qui a été, je me rappelle par la suite dans le jeu, il y a eu ce qu'on appelait des blessed deeds qui étaient des contrats qui te permettaient de bénir un objet, mais un objet de vêtements. pour que tu ne le perdes pas quand tu mourrais. C'était les seules choses que tu perdais pas. Donc,
le rêve du newbie.
Le rêve du newbie, c'était d'avoir une paire de sandales noires bénies. C'est sûr. Donc voilà, j'avais tous mes personnages qui avaient des sandales noires bénies, c'était la grande classe. Donc voilà. Autrement, dans les autres petits vols qu'on aimait tout particulièrement faire avec des amis, je me rappelle, on avait une très bonne technique. C'était que on allait en ville, puis on faisait de la publicité pour un objet qu'on avait envie de vendre, à vendre super épais de vanquishing, blablabla, 30 000 gold. Puis on attendait qu'il y ait des gens qui viennent, qui soient intéressés. Et quand le gars venait vers toi, il fit « Ok, je te les achète pour 30 000 », toi, ce que tu faisais, c'est que tu prenais ton arme, tu la glissais sur lui, et à ce moment-là, tu avais une trade window qui apparaissait, avec une case à gauche, une case à droite, pour toi, l'arme dans ta case, puis de l'autre côté, tu attendais que le mec te mette le tas d'or dedans. Ce que tu faisais, c'est que au moment où tu mettais ton arbalète, de nouveau, tu prenais un skill qui servait à que dalle, tu targetais l'arme que tu donnais, enfin que tu échangeais contre de l'argent au newbie. Le gars.
De l'argent newbie.
Mais oui, le gars te vendait, enfin le gars t'échangeait le truc, t'acceptais le deal, et au moment où t'acceptais le deal, tu faisais voler la Stargate. Et à ce moment-là, tu lui reprenais l'arme que tu lui avais vendue. D'accord ? Et il y avait dans l'autre sens qui était beaucoup plus sympa. C'est quand quelqu'un vendait une arme magique et que toi, tu venais comme acheteur. Ouais, ouais. Moi, ça m'intéresse. Tu viens, tu posais un chèque dedans et son arme, tu la targetais avec un skill qui sert à rien et cette fois-ci, tu cancelais le trade. Ouais. Parce que la seule chose que tu voulais voir, c'est que le mec te la montre. Là,
ouais,
pour
ça.
Que tu puisses la targeter une fois et lui la voler. Donc tu disais, moi je veux l'acheter, ouvre la trade, ok vas-y je te bazarde le truc, hop je cancel la trade, le mec faisait devant son écran, il va faire putain il s'est passé quoi, le mec il a pas accepté, où est ma thune, putain mais j'ai pas de thune, putain mais j'ai plus d'armes, mais qu'est-ce qui se passe, je me suis fait blouser, garde. Enfin bref, c'était quelque chose qu'on appréciait tout particulièrement, jouer le voleur, c'était
toujours bien les voleurs,
t'es toujours du bon côté, ça fait plaisir.
Mais après tu revendais ses armes, enfin tu donnais ses armes aux pauvres,
ou bien
Robin des Bois, c'est tout à fait moi,
ça t'allait vers des news. Ouais. Sans équipement et tu ouais, la disais tiens,
je t'ai tué 200 fois, tiens allez
tiens.
Vas-y je te donne je vais faire encore une
non mais là tu as
allez, une petite dernière,
de toute façon on est
une
plus
petite dernière
après,
je sais vas-y. Qu'on en parlera un moment, enfin j'en parlerai un moment, je vous parlerai d'une ville qui s'appelait Buccaneer's Den. La ville de Buccaneer's Den, c'est la seule ville où les meurtriers pouvaient aller, c'est la ville de hors la loi. Donc dès le moment où c'est une ville de hors-la-loi, tous les gens qui ont envie de tuer de hors-la-loi pour récupérer des bounties vont y aller. Donc au final c'était très dangereux d'y aller. Et sur Yo, il y avait un seul serveur, mais il y avait ce qu'on appelait des serveurs line qui séparaient en fait le serveur en plusieurs zones. Tu pouvais passer d'une zone à une autre sans temps de chargement, mais tu savais que tu passais un serveur à un autre parce que il y avait, enfin comment dire, dès le moment où tu passais une server line, ton perso rebondissait un petit peu. Et puis les mobs avaient des couleurs un petit peu bizarres. Enfin, tu sentais que tu changeais de zone, quoi. Il y a un truc qu'on adorait faire avec un pote, c'est qu'on avait deux persos qui avaient le même nom. Lui avait un personnage qui était voleur, donc dès le moment où tu savais que c'était lui le voleur, il y avait une chance qu'il soit ce qu'on appelle permaflag. Ça veut dire qu'une fois qu'il a volé, après avoir volé, il redevient bleu. Mais vu que c'est un voleur, il y a toujours cette sorte d'incertitude qui fait que s'il a volé avant et qu'il n'a pas été tué entre temps, tu peux toujours le buter même s'il est flagué bleu. Tout d'un coup, il sera reflagué gris s'il n'a pas expié sa faute, si tu veux.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc, ce qu'on faisait, c'est que j'avais un pote qui avait un voleur et il allait faucher les trucs des gars à la banque. Il courait vers la server line et vu qu'il y avait cette espèce de petit moment de latence, dès le moment où il traversait la server line, c'est comme si tu n'avais pas de ligne de vue. Donc, plus personne ne pouvait te targeter, c'est comme si personne ne te voyait. Donc, c'était super facile de se cacher. Donc, il traversait la server line, il se cachait. Moi, j'étais planqué à côté de l'endroit où il se cachait et je ressortais de ma planque où j'étais caché aussi avec le même nom, les mêmes habits.
Attends,
et je continuais à courir. Oh, comme si j'étais la même personne. Et d'habitude, le gars me retargetait en pensant que c'était mon pote et me butait. Et moi, je le reportais derrière. Et là, il m'a dit, mais des coups de pute.
C'est tellement méchant.
Mais ouais.
Bon.
Donc voilà, c'est encore des petits coups vicelards. Il y en a encore plein comme ça.
Ah, mais c'est joli.
C'est très mignon. On se réjouit d'entendre les prochains.
Voilà. Ah oui, grand plaisir. Merci, tonton Yannick.
Voilà, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On a fait n'importe quoi cette fois, hein, les gars. On a été très long. On s'excuse. La prochaine fois, on fera court. On parlera d'un jeu de pas intéressant. Merci aux gentils auditeurs de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un jeu qui fait pas peur. On vous aime, à bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
Kamakenso.